Et bienvenue à Conduite Antisportive sur les ondes de Schiste 94.3, édition du 30 mars 2023. Félix-Antoine Audet à ma gauche et Alex Fortin à ma droite. Comment ça va les garçons?
Oh, pleine forme.
Yeah!
Top shape, top corner.
J'ai finalement à me débarrasser, je riais de ça ce midi à l'émission d'information. Quand tu vieillis, tu le remarques, là, mais j'ai bu... à peine une moitié de bouteille de vin rouge hier pour célébrer, nouvelle personnelle. Puis à midi et demi, une heure, j'avais encore un bon mal de tête. Puis là, ça fait à peu près 30 minutes là, qu'il est parti, puis je me sens bien.
Ah!
Ça fait, c'est merveilleux.
Tu recommences à vivre. Là.
Je recommence à vivre.
À 15h.
Oui, c'est ça, à 15h, avec juste un steak puis une moitié de bouteille de vin rouge, puis c'est tout ce que ça prend pour te mettre KO.
Écoute, c'est la...
C'est l'âge, c'est la force de l'âge. Ah, pas de maudit bon sens.
Pas plus que ça.
Ah, hey, écoute, là, il y a une autre excuse que vous connaissez bien, est reliée à ma santé.
Ouais, non, c'est ça.
Que je mentionnerai pas.
Certaines conditions.
Il y a d'autres variables.
Non.
Mais ouais.
Non.
D'antécédents médicaux.
Ouais, c'est
disons. Ouais.
On s'arrêtera là.
On va s'arrêter là, effectivement.
Blessure au haut du corps, comme Kermidak.
Ouais. Mettons.
En espérant que ce soit pas la même.
Non, c'est ça. On y souhaite pas, en tout cas. Ouais,
tout va bien. Okay, s'il y a des auditeurs, s'il y a un auditeur qui est inquiet pour moi, juste vous rassurer, tout va bien.
Félix-Antoine Audet rayonne en ce moment.
Ah, il rayonne.
Il pétille, comme un bon cidre au printemps.
Oui, oui.
T'as un aura alentour de toi en ce moment.
Tabarouette, les gars, arrêtez-moi
ça. T'as un halo,
ça.
Là, tu sais.
Oui.
Ouh, un halo d'ange? C'est-tu toi le démon en comparaison?
Je peux pas le dire.
Ah, oh, OK. Alex, c'est la personne. Moi, ça, sur son épaule droite, le petit ange qui dit quoi faire de bien, puis à l'épaule gauche, c'est
ben,
Gab.
C'est souvent ça.
Ah, quand même, on peut...
Ouais, quand même, au final, je pense.
Hey, c'est une émission là, 100% spiritualité aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Lâchez-moi le sport, là. On est là pour parler.
Non, mais spiritualité du sport.
Ouais.
Oh.
À force du
fait
mental.
Que ça veut-tu dire qu'il faut avoir des convictions religieuses qui nous empêchent de porter des chandails?
Êtes-vous pour ou contre les célébrations religieuses au baseball?
Hey.
Hein?
Non, c'est
quoi? Sujet aujourd'hui, topo. Est-ce qu'on devrait faire une prière? Est-ce qu'on devrait faire au Père, au Saint-Esprit et tout le tralala avant de lancer la balle?
Est-ce qu'on doit s'agenouiller avant les matchs au football américain?
Oh.
Débattons!
Un vrai débat d'actualité.
Ouais. Eh non,
on va laisser ça à notre cher Félix-Antoine pour une de ses émissions d'actualité.
Oui, ouais, c'est ça. Ça. Midi,
on voudrait pas te voler de sujet. Je t'ai vu regarder avec des gros yeux. Là. On te volera pas de sujet.
Hey, de quoi on parle aujourd'hui, les gars?
On est parler de sport.
Ben, ça fait 5 minutes que non.
On a un beau partenariat à Schiste, hein, qu'on adore. Pourquoi tu ris? Les Remparts de Québec. Ouais. Bon, on est le diffuseur officiel.
Oui.
Les Remparts ont terminé premier du classement général cette année dans la LGMQ.
Si on pouvait commencer à y douter en fin de saison. Là.
Ouais.
Ouais. Ils avaient pris une bonne avance au classement, là. Ça les a sauvés un peu. Bon, une fin un petit peu plus mi-figue, mi-raisin pour les Remparts. Houleuse.
On a terminé vraiment dans la fin en force. 8 matchs consécutifs en gagnant. Mais le mois de février avait été tough.
En fait, ce qu'on dénote la saison des Remparts, c'est contre les équipes bien classées. Ça a été beaucoup plus difficile. D'avoir une fiche au-dessus de 500.
Hey, logiquement.
Logiquement, mais reste que, ça s'annonce pas peut-être. C'est pas très positif peut-être pour le pronostic des séries. Bon, les séries qui commencent dès demain soir au Centre Vidéotron, l'adversaire des Remparts qui est le titan d'Acadie Batters.
Oui. Oui.
Pas vraiment de raison d'être inquiété. Là.
Non, en fait, si on se fie aux prédictions des experts, cette série devrait se régler en 4 ou 5 matchs s'il y a un miracle un soir. Là.
Ça devrait être assez expéditif. Là, c'est une des équipes avec le moins de punch offensif dans la ligue. Puis la grosse faiblesse des Remparts, je pense que c'est sûr qu'il faut en parler de toute façon. Excusez-moi, de toute façon, c'est pas mal l'explication numéro un derrière les problèmes en février, c'est les performances de William Rousseau dans le filet des Remparts.
Vraiment.
Exactement.
Ça a été très chancelant, ça a été très dur. Puis s'il y a une chose que beaucoup d'analystes amènent, je peux pas être plus en accord avec ça, c'est que c'est probablement une série de rêves pour les Remparts pour commencer.
Pour se mettre dans le bain.
C'est vraiment une équipe, là, puis je dis pas, il n'y a aucune méchanceté, mais c'est quand on parle d'une équipe qui a aucun punch offensif, son meilleur marqueur est 65e au rang des marqueurs dans la LHJMQ. Il n'y a pas de punch, et en plus, tu rajoutes le fait que les Remparts sont la meilleure équipe défensive de la Ligue. Et c'est l'équipe qui a accordé le moins de buts cette année. je veux dire, c'est le moment pour William Brousseau de se remettre peut-être un petit peu de confiance. De peut-être un blanchissage, peut-être deux, moyenne de but de un.
Il n'y a pas seulement le gardien, ronde. Par contre, on croyait du côté des Remparts que l'ajout de Justin Robida allait peut-être sceller un petit peu plus de brèche en défensive. Ça n'a pas vraiment été le cas. Bon, peut-être ce sera une meilleure aventure pour lui en série avec les Remparts, là, mais c'est bon, évidemment, il n'est pas seul au sein de cette défensive-là.
Non.
Faut aussi prendre en considération qu'il y a Caddy Batters, une défensive plus que respectable, un gardien de but respectable également. Puis ça reste du hockey de série. Hein,
oui,
souvent, on essaie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça reste que ces matchs-là se jouent un match à la fois sur la glace.
Puis aller dans les Maritimes, c'est pas évident non plus. Il y a le voyage qui peut peut-être. En tout cas,
le voyage, un petit décalage du Nord. Souvent, on le prend pas en considération, mais ça reste.
La série se joue au moins en 2-3-2. Donc, oui. Du côté des Remparts, pour essayer le plus de voyagement possible. Ça devrait. Normalement, moi, je suis enclin à dire que ça va se finir en 4 quand même. Là.
Moi, j'ai l'impression que, justement, peut-être que le Titan va en arracher une à domicile. Justement, peut-être à cause du voyage.
En fait, je pense que le plan des Remparts, c'est de ne pas revenir jouer de match à Québec contre les Titans.
Ben, c'est sûr. L'objectif final.
Dans le meilleur des mondes, c'est sûr.
Mais je vois vraiment mal, honnêtement, le Titan. C'est vraiment le pire match-up pour les Titans, les Remparts. La meilleure équipe défensive de la ligue.
Certes. Ouais.
C'est un punch offensif aussi qui est explosif. Beaucoup trop. Oui, je comprends que c'est une défensive qui est pas horrible. Le gardien, c'est pas un des pires de la ligue du tout. Mais, tu parles d'une offensive explosive du côté des Remparts, là, qui se comparait de pas très loin aux Phoenix de Sherbrooke et aux Olympiques de Gatineau et aux Moussettes d'Halifax. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment une équipe complète, mais surtout, c'est l'aspect défensif. Je comprends qu'il y a des brèches, là, on l'a vu contre les bonnes équipes, contre les Joshua Roy, contre les Jordan Dumais. Là, il va avoir contre les Riley Kidney. Il va avoir d'autres enjeux à ce moment-là. Mais quand il s'agit d'affronter une équipe qui a pas de marqueur dans le top 50 de la LHGMQ, tu passes pas à travers la muraille des Remparts.
Effectivement, cette statistique-là est très révélatrice, ouais, sur les forces en présence. Je pense pas que tu aurais pu mieux l'imager pour nos auditeurs. Peut-être pour vous rappeler l'horaire de la série, là. Donc demain, 31 mars et samedi, le 1er avril, les matchs qui sont à 19h. On a mardi le 4 avril et le 5 avril, le 7 également, là, le mercredi, le vendredi, les matchs qui sont à 18h et 18h30 du côté de Caddy Batters. Et si on revient à Québec, après, bon, les matchs seront le lundi, le mardi, 10-11 avril, qui sont à 19h les matchs aussi.
Peut-être pour terminer là-dessus, si vous aviez un petit 5 à mettre là, sur le champion, parce que c'est vraiment des séries qui risquent d'être intéressantes, surtout rendues en demi-finale. Il y a 4 équipes qui sont à un autre niveau. Il y a tout le reste de la ligue, mais peut-être que vous avez un autre choix autre que celui-là, là, mais les Moussettes d'Halifax, les Olympiques de Gatineau, le Phoenix de Sherbrooke, qui les Remparts de Québec, c'est de
top
loin 4,
là,
les 4 meilleures
équipes. Ouais.
Ces 4 équipes-là, d'ailleurs, qui se retrouvent de façon avantageuse depuis quelques semaines dans les top 10 de la Ligue canadienne de hockey. Le Phoenix de Sherbrooke, qui est numéro 1 dans le classement de Power Ranking de la Ligue canadienne de hockey. L'Olympique de Gatineau en 2e position. Les Remparts en 4e position. Et les Moussettes, je sais plus exactement sur quelle position, mais ils sont dans le top 10 aussi. Donc la LHGMQ qui est très bien représentée. Position 1, 2 et 4. En général, ça va être des séries très excitantes.
Le Moussette, entre autres, qui a eu le numéro des Remparts cette année quand même. Là. Mm-hmm. C'est peut-être la bête noire, le Némésis... des Diables Rouges.
Je sais pas si tu le sais plus que moi, là, parce que ça m'échappe, là, parce que là, les premières rondes sont en lien avec les divisions, la division Est et Ouest. Est-ce qu'on reste dans l'intérieur de nos divisions tout le long des séries jusqu'à la finale? Ou ça se...
Non,
ça se
c'est déjà mélangé, là, parce que les Remparts affrontent le Titan Acadie Batters.
C'est pas dans la même division?
Non.
Ah, je pensais que c'était en interdivision, les séries. Mon erreur. Mais
je cherchais d'ailleurs un tableau, mais il est pas encore créé.
Dans les séries éliminatoires. Bon, alors à ce moment-là, votre
la braquette
favori
en soi. Et j'ai l'impression que le Phoenix va gagner.
Je suis pas mal dans la même lignée que toi.
Ouais.
Tu sais, oui, ils ont pas eu la meilleure fiche de la saison, je comprends là. Mais qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire? On a parlé beaucoup de Joshua Roy ici dans les dernières semaines, dans les derniers mois. On n'arrête pas de le dire. Il s'ennuie en ce moment dans le junior. Ouais. Il n'y a pas de fun, mais les dernières semaines, c'était la course aux séries. Il a trouvé la vitesse de plus.
Là, ça compte.
Ça compte. ça va être le vrai Joshua Roy qui est prêt à jouer professionnel, qui va arriver jouer dans les séries juniors.
C'est lui qu'on a vu au championnat mondial junior, là. C'est celui-là.
C'est le genre de joueur que je pense pas que les Remparts ont. Ils ont d'excellents joueurs, mais je pense pas qu'ils ont un, disons-le comme ça, là, vous me permettrez l'expression, un game breaker.
Ouais.
Comme Joshua Roy. Jordan Dumais, du côté des Mousseds, ou encore un Riley Kidney. Peut-être que ça se transmet pas au niveau professionnel, là, mais reste qu'au niveau junior, depuis qu'il est avec eux, il fait 2 points par match, puis il réduit sa moyenne de points par match. Là. Mm-hmm. Ça fait pas de sens. Là. J'ai l'impression qu'il manque peut-être un peu ça. Le plus proche, c'est peut-être un Zachary Bolduc, un Justin Robida, s'il est capable d'allumer la machine, mais il manque cette espèce de joueur-là. Là. Nathan Gaucher, c'est, oui, c'est peut-être un joueur repêché, mais c'est un gars qu'on voit plus comme un centre au prochain niveau, là, défensif. C'est pas un game breaker non plus offensivement.
C'est pas lui qui apporte le plus de punch. Bon, tu parlais de punch offensif tout à l'heure. C'est pas lui qui en apporte le plus avec les Remparts. Je pense qu'on s'attend à beaucoup de Rochette et de Zachary Bolduc, là.
C'est là. Puis sans rien enlever à Bolduc, je sais pas si je le mets au même niveau que les autres gars que je viens de vous nommer. Non, il est dans le junior, du moins.
Plutôt unidimensionnel, ben, là,
On vient de nommer Rochette. C'est serré à lui, là.
Ouais.
Il se doit d'être le leader de cette équipe-là. Bon, joueur de 20 ans. Le plus mature, un des bons patineurs des Remparts. Je pense que les séries, c'est à lui d'élever son jeu.
Vas-y, fais-le pour Dona.
Exact.
On s'est prononcé pour Sherbrooke. Toi, de ton côté, si t'avais mettre un petit 2
ou un 5.
Ou un 5.
Je sais pas vraiment.
Non, mais, non, mais là,
on sait pas vraiment. Là. Tu choisis. Là.
Faut que tu mettes ton 5.
Il n'y a pas de statu quo.
Tu le mets à la table.
Sherbrooke.
Bon,
hey.
C'est une unanimité, c'est rare en maudit. Sinon,
ouais, c'est rare qu'on s'entende.
On va diffuser cette émission-là sous les ondes de CFAC. Après l'émission, on va la rediffuser là-bas parce que
c'est la radio Sherbrooke. Sherbrooke, OK.
Hey, là, le lien, ça s'est pas fait. C'est pas grave. C'est quoi ce CFAC?
Hey. Le cerveau commençait à chauffer, il y avait de la fumée qui sortait.
Ah, on salue Sherbrooke. On salue Usher. Mais moi, Université de Sherbrooke. Hey, ça va pas, là.
Usher. Okay, excuse-moi, mais là, Usher, je suis désolé, mais moi, c'est pas le premier réflexe de penser à l'Université de Sherbrooke.
Sherby,
oui. Ouais, Sherby, ça, je vais y penser. Usher.
C'est tough. C'est tough aujourd'hui.
Non, mais attends, là.
Non, mais Gav, oui.
Quoi? OK,
oui.
Carton jaune.
Personne ici a compris tes allusions à Sherbrooke, là.
Ben là, comment?
Ben non.
C'est fact, c'est niché, mais acceptable.
C'est
Usher.
Le street name de l'Université de Sherbrooke, là.
On est une radio universitaire, la gang.
Carton jaune.
T'es
dans le livre.
Hey, si à chaque game, si à chaque game, je suis dans le livre.
Si tu veux aller voir le Vert et Or, vas-y tout seul. Louise, tu vas sûrement être tout seul à l'Australie.
Aussi.
Ouais. Ouh, on va peut-être pas la rediffuser, ces autres.
Bon, c'est un petit clin d'œil, un commentaire de notre cher entraîneur du Rouge et Or, Glenn Constantin, qui n'était pas de très bonne humeur après un match contre Sherbrooke cette année.
Hey, je m'en rappelle même pas.
Ouais. Ça a été difficile quand ça avait, à Sherbrooke.
Ça avait été difficile, les conditions difficiles, puis il avait pas aimé un petit peu les commentaires dans la semaine avant. Le Rouge et Or a remporté ce match-là haut la main. Bon, Glenn Constantin qui s'était gâté un peu sur le nombre de personnes dans les estrades, sur la foule.
Ouais, écoute, c'est de bonne guerre.
C'est de bonne guerre. Ben, c'est du football universitaire, puis je pense qu'on est là aussi pour mousser un petit peu ces rivalités-là. On a hâte quand même au football.
Vraiment?
On a annoncé d'ailleurs le format des séries canadiennes.
Oui, ça a été annoncé tout à l'heure.
On a donc Québec qui va encore recevoir Ontario en demi-finale.
Oui.
Puis on va avoir la finale, c'est en Ontario, je pense.
C'est la finale à Coubaligny est à Kingston à l'Université Queen's. C'est un petit peu moins loin pour notre équipe de description. Si le Rouge et Or est capable de se rendre encore en finale de la Coupe Vanier, on coupe un petit 3h, 4h là,
ça va être agréable.
au déplacement.
Parce qu'on va toucher du bois, là, on va arriver. Là.
Ouais. Ça sent
directeur général va sauver un peu d'argent sur l'hôtel mais sur le gaz.
En tout cas, on a très hâte. On a très hâte de vous revenir avec une belle saison du Rouge et Or. On vous rappelle qu'on est à Chiz, le descripteur, le diffuseur officiel du Rouge et Or. Autant football que parfois, on vous diffuse du volleyball, du basketball.
Ouais.
Bon, on essaie un petit peu de varier. Mais on a très hâte à la saison de football, évidemment.
Certainement.
Yes.
On pourrait peut-être aller en Formule 1?
Les rouges s'éteignent.
Les yeux de Gabriel s'éteignent.
Moi aussi, mes oreilles aussi. J'allais faire autre chose, chercher un thé, quelque chose.
OK.
Troisième Grand Prix de la saison de Formule 1 cette fin de semaine. Down Under. Ouais, en Australie. Good day, mate. Hein? Good day.
Je dirais que c'est bizarre. Quand j'ai commencé à écouter la Formule 1, c'était le premier Grand Prix. C'est toujours l'Australie.
Dans ma tête, c'est encore le premier Grand Prix.
C'est weird que ce soit le troisième.
Hey, c'est souvent le premier de tout en Australie. Premier tournoi Grand Chelem au tennis aussi.
Oui, c'est
aussi.
Vrai.
C'est loin, on s'en
est pas clair au début.
Enfin, il y a une question de saison. Ben oui, les saisons qui sont inversées pour les gens. On fait des blagues.
Les saisons dans le désordre.
Bon, et bon, on a le troisième Grand Prix. Un circuit de l'Albert Park. Bon, un circuit, là. C'est un circuit pop-up, là, un circuit routier. C'est comme un festival un peu. Donc, on monte, on utilise un parc vraiment avec les routes qu'il y a à l'intérieur pour faire un circuit.
Ah, ça, c'est le fun.
C'est magnifique. Ouais. Les images sont magnifiques. L'Australie est très fière de son Grand Prix aussi. Là. On peut voir qu'il y a beaucoup de partisans chaque année. Il y a une belle ambiance de festival là, un petit peu pour emprunter un petit peu l'énergie qu'il y a à Montréal. C'est un petit peu la même en Australie.
Nice. Est-ce qu'on va s'ennuyer de l'absence de Daniel Ricciardo pour la première fois?
Peut-être, mais il y a Oscar Piastri chez McLaren qui est australien. Ricciardo est dans le paddock cette fin de semaine. Va pouvoir arborer son plus beau sourire.
Daniel Ricciardo, penses-tu qu'il va aller parler aux médias?
Sûrement. Les médias vont sûrement essayer d'avoir une côte ou deux de la part de Daniel. C'est toujours intéressant de lui parler aussi.
Il est divertissant.
Très divertissant. Il doit s'ennuyer. Il doit un petit peu s'ennuyer aussi de donner son show aux médias.
Ben oui, c'est sûr.
Mais on l'appréciait beaucoup, Daniel, dans le paddock. C'est pas impossible qu'il revienne. Ça va être difficile, par contre. Très, très difficile.
Il faudrait qu'il accepte d'être dans une petite écurie.
D'être moins payé. Bon,
ça semble pas être quelque chose qu'il semble prêt à faire.
Mais on peut le comprendre aussi.
Ben oui.
Quand t'as été à l'avant aussi longtemps, t'as perdu ta réputation un petit peu dans les deux dernières années. McLaren, t'as pas envie de te refaire mal de cette manière-là. Ouais. Autant bon, au niveau sportif que psychologiquement, parce que bon, ça n'a pas été facile pour Daniel. Mais si on revient au pilote bon, qui court pour vrai.
Oui, hein? Oui. Le champion en titre, c'est Charles Leclerc.
Du Grand Prix.
Grand Prix de l'Australie.
Oui. Je pense pas que Charles Leclerc va gagner cette fin de semaine.
Est-ce qu'il pourrait
Les deux pilotes, je dis hier, mais c'est cette nuit, là. Qui en entrevue était très prudent par rapport à leurs commentaires sur le développement de la voiture. On n'a pas de nouvelles pièces encore. Ça va venir après la prochaine pause qui est de 3 semaines avant le prochain Grand Prix.
Ouais. Okay.
Les deux pilotes de Ferrari. Donc Sainz et Leclerc très prudent. On ne s'attendait pas à avoir beaucoup de succès sur cette piste qui demande quand même une performance en virage de vitesse moyenne.
OK, ouais, ben justement, peut-être parce que ça, c'est une des choses que j'adore t'entendre parler, là. C'est ta connaissance sur chaque circuit. Quels sont les défis particuliers du défi? Ben,
ce qu'il faut se rappeler de l'Albert Park, c'est que le circuit a changé l'an dernier. Si on se rappelle, on a enlevé une chicane là, en plein milieu du circuit qui était le virage 9-10 pour le remplacer par une longue ligne droite qui mène au nouveau 9-10, qui est une chicane de très haute vitesse. Alors, il y a deux parties dans le circuit. Il y a la première section qui est plus virage lent et moyen. De vitesse moyenne et lent. Ensuite, on a la longue ligne droite, on a deux virages rapides et ensuite, on est dans une section avec des virages lents. Okay. Donc, ça prend une voiture capable de performer dans plusieurs types de virages, mais quand même, on peut tricher d'un côté ou de l'autre.
Okay.
Donc, on peut faire comme à Jeddah un peu, c'est-à-dire y aller full beans, vitesse en ligne droite, le moins de traînée, de drag possible sur la voiture, comme Williams a fait à Jeddah. Mais ça veut dire qu'il y a un compromis qui se fait dans les secteurs 1 et secteur 3, mais on est ultra performant dans le deuxième, où on peut essayer d'être plus balancé, plus d'appui aérodynamique, comme Aston Martin a fait lors du dernier Grand Prix, Red Bull aussi. Ben, Red Bull était rapide dans les trois secteurs.
Red Bull est juste bon partout. Là.
Exactement. Bon, Aston Martin a fait le compromis d'avoir plus d'appui aérodynamique, donc excellent dans le premier secteur, plus lent dans le troisième.
Il y a les modifications qu'on fait durant les séances de pratique et tout, mais pour ce qui est des conditions de base des voitures. Est-ce que ça avantage certaines écuries plutôt que d'autres?
Ben, ce qu'on entend là, du paddock, la ligne dernière, encore une fois, c'est qu'Aston Martin serait bien positionné pour performer cette fin de semaine dû à un équilibre de voitures qui est bien réparti, surtout rapide dans les virages à vitesse moyenne. Ferrari serait moins adapté pour ça, surtout au niveau de l'usure des pneus. Ce qui pourrait être difficile, encore une fois, en course, là, pour Ferrari, d'avoir un rythme de course soutenu.
Okay.
Évidemment, comme je disais, il n'y a pas eu de nouvelles pièces sur la voiture, sur la Ferrari, cette fin de semaine. Donc, on ne réglera pas ce problème-là en claquant des doigts. Ce ne sera pas tout de suite. Mercedes non plus. Hein. Je pense que toutes les voitures sont encore sur le spec du début de saison, pour la plupart. Alors, les tendances seront les mêmes. Je pense qu'on peut s'attendre à une bonne performance de Mercedes, étant donné qu'ils ont montré des belles choses à Jeddah. quand même, hein, en Arabie Saoudite. Je pense qu'en Australie, ils vont être capables de reproduire un peu ces faits d'armes-là. Mais c'est vraiment Red Bull, bon, évidemment, qui sera devant. On aurait peur un peu pour la fiabilité chez Red Bull. Hein. Okay. C'est quand même le troisième Grand Prix des éléments de moteur. On a eu des problèmes de drive shaft avec Max Verstappen la semaine dernière en qualif, un petit peu en course aussi, il y avait un bruit bizarre. On dit qu'on n'a pas trouvé la cause de ce bruit-là.
C'est toujours rassurant ça, quand t'as une auto puis tout le monde te dit correct, mais fait le bruit le plus
étrange. Ah, mon char fait cling, 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 mais le mécanicien dit non, tout est beau.
OK.
OK.
T'es jamais bien confiant, mais...
Mais tu y vas. Donc, ça pourrait peut-être être une raison là, de qui pourrait ouvrir la porte à Aston Martin, à Fernando Alonso, peut-être, pour remporter ce Grand Prix-là. Je pense que la qualif va être très importante, toujours importante en Australie, parce que, c'est pas le circuit le plus large, hein, c'est un circuit routier, c'est plus difficile de faire des dépassements.
C'est un circuit urbain.
Urbain. Il y a quand même quatre zones de DRS cette fin de semaine. Hein. Deux points de détection, quatre zones de DRS. Ça peut être bon ou ça peut créer des trains DRS, là, qu'on appelle des DRS trains.
La température a l'air de quoi en ce moment?
C'est tempéré, c'est 18 et en 18 et 22 degrés.
Ça baisse quand même.
C'est la fin de l'hiver. C'est la fin de l'été, pardon, en Australie. Ouais. Et il annonce la pluie vendredi.
OK.
OK.
Donc ça pourrait être un petit peu plus difficile pour les ingénieurs de trouver les bons réglages s'il y a de la pluie toute la journée vendredi. Ça met beaucoup de pression sur la séance du samedi matin. Et c'est là que les ingénieurs peuvent se tromper et que la grille peut se mélanger un petit peu plus.
Ça va être intéressant.
Très intéressant. Faut quand même pas s'attendre là, à avoir des miracles et d'avoir une Ferrari sur le podium ou même une Alpine qui termine quatrième à moins d'une catastrophe.
T'sais, jusqu'à preuve du contraire, dans cette saison-là, chaque fois qu'on va me demander, ça va être Red Bull.
Jusqu'à preuve du contraire.
Elle a l'air tellement dans une autre dimension de vitesse.
Surtout avec le DRS qui est 25% plus efficace que tout le monde.
T'as pas de maudit bon sens.
Qu'on appelle le triple DRS parce qu'il y a en aérodynamisme, il y a un triple effet.
Okay.
On est très stable. La Red Bull mange pas les pneus. Très douce au niveau des pneus.
On l'a vu avec le premier Grand Prix où tout le monde était en dur puis était en mou pour une deuxième.
C'est surtout une voiture qui est à sa deuxième année de conception et on n'a pas changé de direction. Donc on est plus loin que les autres. Ouais. Ferrari, on essaie d'avancer, mais on a fait des pas par en arrière. Aston Martin, on a changé de concept. Donc, on est en retard un peu sur ce développement-là. Ouais. Mercedes, on a fait beaucoup de pas par en arrière aussi. Je pense qu'on a atteint un mur avec ce concept-là. C'est pour ça qu'ils vont changer de voiture, de spec plus tard dans l'année. Alors, il n'y a pas vraiment personne qui peut inquiéter Red Bull. Là. Même s'ils ont moins de temps en soufflerie et en CFD, comme on en parlait lors de la dernière émission.
T'sais, je pense que c'est parlant le fait que, comme tu l'as dit, la seule raison pour laquelle on considère qu'Aston Martin pourrait avoir une chance, c'est qu'on s'inquiète de la fiabilité.
Exactement.
C'est ça. Si Red Bull ne se tire pas eux-mêmes dans le pied, merci, bonsoir. C'est terminé.
Mais Red Bull n'a pas gagné en Australie depuis 2011. Petite statistique intéressante.
Intéressant.
À voir. Donc, on vous rappelle que les séances d'essai libre sont cette nuit. À 10h ce soir et à 1h, je crois. Même chose pour la troisième pratique et la qualif qui sont vendredi durant la nuit et le Grand Prix samedi durant la nuit également.
Pour les oiseaux de nuit, ce Grand Prix.
Pour votre cher Alex Fortin qui va sûrement rester réveillé pour regarder ça. Avec une petite boisson.
Pour se faire réveiller après ça à 6h du matin par la petite cocotte.
Par la belle Sophia.
Hey Alex, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu trouves que le parcours est similaire à celui de Monaco? Le circuit?
Non, du tout. Monaco, c'est
restreint, c'est tout compact.
Monaco, c'est un anachronisme. Ça reste un circuit extrêmement étroit. La vitesse la plus élevée qu'on atteint, ça doit être 280 km/h. En Australie, on va aller à 350 là, avec le DRS en qualif.
OK.
Donc, c'est vraiment pas la même chose.
Okay.
C'est plus sur le même frame que Montréal.
OK.
Ouais, ça reste un circuit routier, hein, c'est plus étroit.
Ouais.
Les bacs à gravier, les murets sont assez proches, mais on n'est pas serré comme à Monaco.
Je vois. Hey, c'est intéressant, même si je suis vraiment moins érudit que vous deux, les garçons.
Ça me fait plaisir.
Mais écoute, j'en retire quand même un certain plaisir.
De la même manière que je retire du plaisir de vous écouter parler de soccer puis de baseball.
Avant d'aller en pause, prédiction?
Comme je t'ai dit, je peux pas aller à l'inverse. Je vais dire 1-2 Red Bull.
Ça me prend des noms.
Verstappen premier, Perez deuxième, Alonso troisième. Je vais, mettons, mon pari agressif, c'est Lance Stroll 5e.
Ton.
Hey, je veux Charles Leclerc encore. D'année en année. Je suis Ferrari. Ouais. Let's go.
On mettra pas 5 piastres là-dessus.
Non, non. Hey, ben, ce serait un 5 piastres facile pour nous. Allez-y donc. Ouais, ouais.
Pour moi, personnellement, je vais y aller parce que, bon, il faut que je back mes paroles, mais je pense qu'Alonso va aller chercher ce Grand Prix-là. Parce qu'une des deux Red Bull ne terminera pas et ce sera la Red Bull de Max Verstappen.
Tu penses qu'Alonso peut rattraper Perez?
J'ai l'impression qu'on pourrait avoir un podium qui est Alonso, Perez.
Oh, ouais.
Et George Russell, troisième.
Ah! Oh. OK. Russell 3e, ça serait très, très, très intriguant. Bien, hâte de voir.
Eh ben.
Alors voilà.
On s'en rejase la semaine prochaine, peut-être. D'ici là, on s'en va en publicité. Et au retour de la pause, je vais vous faire jouer Soccer Mommy avec Bloodstream sur les ondes de Chiz 94.3. On the side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonsoir chérie!
Bonsoir!
J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non, non, non. Ah chérie, j'arrive. Ce qu'on sort tout court, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben!
Aux très chers auditeurs du Chiz 94.3, savez-vous que la musique est la seule drogue qui ne peut pas vous tuer? Alors venez goûter à la pilule chilule. C'est de la synth-pop, de la dream-pop, de l'indie et même des pépites méconnues de la France et de l'outre-Atlantique. Chilule pilule, c'est une cure bien méritée. Tous les mercredis, de 22h à 23h30, sur les ondes du Chiz 94.3 FM.
Running through my yard like a wild stream.
et baseball, tu l'as-tu parlé des...
Oups. C'était Soccer Mommy et Bloodstream sur les ondes de chaise 94.3.
T'as pas joué tes beaux retours de pause?
Non, c'est vrai. C'est
on pourrait peut-être en montrer un aux
vrai,
auditeurs.
C'est vrai, c'est vrai.
Ben, alors, vraiment, on le redonne tout de suite. Les joueurs des Hurricanes n'ont jamais voulu. Martin Belzé est encore au banc des Hurricanes.
Tu es anti-sportif, ça marque.
C'est nous.
C'est nous autres. C'est nous autres.
Carton rouge pour retour trop rapide, ayant causé malaise en nombre.
J'ai dit stand-by 10 secondes, les garçons. À vous d'être disciplinés.
Fallait mettre le retour de pause.
Ben non.
C'est juste un carton jaune, mais t'es rendu à ton deuxième. Fait que c'est carton rouge. Merci, bonsoir.
Cet arbitre-là. On ben, le voit pas. Hey, c'est les arbitres de la Gold Cup, CONCACAF.
C'est pas moi qui fais les règles.
Niveau,
hein.
Niveau CONCACAF, ton arbitrage.
La décision. Ouais, la décision est rendue.
Niveau CONCACAF.
CONCACAF, c'est tout ou rien.
Ouais. Il n'y a pas de demi-mesure.
La décision, elle a été rendue.
Évidemment, vous allez comprendre qu'on va parler de soccer, de foot. Du foot nord-américain.
C'est rare, en maudit, que c'est moi qui propose qu'on fasse ça. Hein?
Ouais, vraiment.
Mais je lisais dans la presse le compte-rendu du match du Canada contre le Honduras. Et le nom qui ressortait, c'était sans aucun doute celui d'Ismaël Koné, qui aurait connu un match absolument exceptionnel. L'entraîneur, le sélectionneur canadien qui disait le mettre dans ce match-là, du moins, sur le même piédestal que les Alphonso Davies, Jonathan David de ce monde d'équipe Canada. Et j'avais besoin de parler à mes experts soccer, savoir Colin Bin, il est-tu rendu si bon que ça? Qu'est-ce qui se passe avec Ismaël Koné?
Tout à fait. Ben, on s'entend, on l'a vendu du côté du CF Montréal pour plusieurs millions de dollars à Watford en Angleterre, deuxième division. Il se fait un nom, autant sur la scène locale là-bas et internationale avec le Canada. Évidemment, tu sais, on faisait des comparaisons avec les grandes vedettes comme Jonathan David et Jonathan Davis. Il y a un poste moins sexy, comme tu le disais, Alex Hordon, là. Milieu de terrain est très responsable, fort en possession de ballon, vire sur un 10 cents littéralement, est très, très à l'aise techniquement pour un joueur à son poste. Mais effectivement, son ascension est fulgurante. En quoi, un an et demi, là, il est passé de Saint-Léonard à l'Angleterre.
À Watford, dans l'Angleterre.
Et à la Coupe du Monde. Donc, tu sais, bref.
Pour revenir peut-être sur la vente là, du CF Montréal, bon, les rumeurs disent qu'ils ont ajouté un pourcentage à la revente. C'est-à-dire qu'on l'a vendu bon au-delà de 6 millions d'euros, si je me souviens bien.
Okay. Oui, ça ressemblait à ça.
Et il y a un pourcentage à la revente. Bon, on n'a pas le nombre. Donc, ce que ça veut dire, c'est s'ils le vendent, exemple, je ne sais pas moi, 20 millions dans un an, et que le CF Montréal s'est négocié un 15 %.
T'as un 3 millions de plus.
Donc, tu vas avoir un autre 3 millions de plus sur cette deuxième transaction.
Ça, ce concept-là de vendre les joueurs vraiment pour du cash, c'est quelque chose qui est très étrange pour quelqu'un qui ne suit pas le soccer.
Ouais.
Mais est-ce que le CF Montréal a fait quoi avec? C'est-tu de l'argent qui a servi à acheter d'autres joueurs?
Pour l'instant, j'ai envie de te dire que l'argent ne servit à rien, que dalle, niette.
OK, mais c'est-tu normal?
J'ai l'impression qu'on se positionne. On a peut-être renfloué les coffres un petit peu parce que le club est déficitaire depuis son entrée à MLS. Ça veut pas dire que le club n'investira pas avant. Parce que le mercato MLS, bon, la période des transferts se termine fin avril.
Okay.
Donc, on a encore un mois pour dépenser cet argent-là. Mais à entendre Olivier Renard dans ses entrevues, ça ira pas magasiner chez Costco pour faire l'épicerie.
Ça me fait penser au hockey des années 80 où ce que t'échangeais tes joueurs vedettes contre du cash. Mm-hmm. Wayne Gretzky, bon, envoie-moi ça, mais envoie-moi quelques millions de dollars en retour, là, parce qu'on a de la misère à faire de l'argent. C'est vraiment très, très, très étrange. Ouais. Comme
mais le CF Montréal va se repositionner. On sent déjà on reviendra sur Ismaël Koné, là, après cette petite parenthèse-là. On a un petit peu plus de support corporatif à Montréal. On parle peut-être d'améliorer le stade Saputo, peut-être d'en construire un autre. Je pense qu'on essaie de se positionner.
Okay.
Autant au niveau sportif que financièrement. Bon, c'est pas sexy pour les fans.
Non.
Mais il y a plusieurs jeunes joueurs qui pourraient nous surprendre dans la prochaine année et devenir peut-être le prochain Ismaël Koné.
Okay.
Hein, au début de l'an dernier, j'étais pas convaincu d'avoir Ismaël Koné dans l'alignement partant. Puis finalement, ben, je m'ennuie de lui.
Ouais.
Effectivement. Au niveau des assistants, ça va quand même bien à Montréal depuis le début de la saison. Mis à part justement Seattle qui est au-dessus de tout le monde, je pense que Los Angeles aussi, là, on est dans les top 5 au niveau.
Il y a justement un match au Stade Olympique. Quand même 23 000 personnes qui se sont déplacées.
Voilà.
Ça a l'air que les premiers matchs au Stade Saputo, là, les deux, trois premiers seraient presque à salle comble déjà. Donc,
est-ce que c'est l'effet Coupe du Monde?
L'effet Coupe du Monde, l'effet performance de l'an dernier.
Saison, ouais.
Il y a aussi le fait que c'est le sport le moins chérant à Montréal.
Oui, ça les coûte, Alouettes aussi.
Oui, mais sont un petit peu moins chers que les Alouettes. Hein, ils ont plus de matchs.
OK.
Tu peux aller voir le CF Montréal pour 25 $.
Ouais, c'est ça. Puis il y a pas une belle activité relax de fin de semaine.
Il y a pas de mauvaise place dans ce stade-là.
Non, le prix des concessions non plus.
C'est pas très cher, c'est pas de la bière à 10-12 piastres, tu peux en avoir une à 7,5-8.
OK.
Puis honnêtement, c'est le stade extérieur qui a la meilleure ambiance au Québec.
Cool.
Qui est le plus je te dirais qui donne l'expérience la plus complète. C'est, okay. c'est vraiment un bel endroit pour aller voir du sport. Je le conseille à tout le monde.
Ouais.
Alors pour revenir à Ismaël Koné, la question que je me pose, parce que de ce que je comprends, il y a un vétéran de longue date qui est à sa position avec Équipe Canada.
Atiba Hutchinson.
Hutchinson, bon. Est-ce que Ismaël Koné, à la prochaine Coupe du Monde, est partant de cette équipe-là?
Oui, tout à fait.
Oui. Tout à fait. Il était déjà partant pour les matchs de cette semaine. On le rappelle, le Canada a gagné contre le Curaçao. À Curaçao, a gagné contre l'Honduras 4-1 à Toronto.
D'ailleurs, il y avait plusieurs joueurs du Toronto FC qui jouaient ce match-là du côté du Canada, dont Jonathan Osorio qui a marqué.
Exactement. Donc, on est allé chercher deux bons résultats qui nous qualifient, qualifient le Canada pour les finales de la Nations League, la Ligue des Nations de la CONCACAF.
C'est quoi exactement sur la Nations League?
C'est une compétition annuelle entre les clubs de la région de la CONCACAF pour que la plupart des pays aient des matchs significatifs à jouer et non seulement des matchs amicaux. Et cette compétition-là se termine avec une finale, une demi-finale et une finale, évidemment, pour gagner le titre de la Ligue des Nations. C'est quand tu as une équipe moins bien classée contre le Panama ou comme le Honduras ou le Curaçao, c'est très intéressant de jouer contre les États-Unis, le Mexique, le Canada, ces pays-là. Quand tu es dans la position des États-Unis, du Mexique, du Canada, tu veux jouer contre des meilleurs profils, contre des clubs de renom. Des équipes de renom dont, ça peut être le Brésil, ça peut être, des équipes européennes, ça peut être, on peut aller jouer un match contre le Japon, peu importe. Mm. C'est les matchs qui importent dans le développement de ces équipes-là. Et là, on est pogné à jouer contre, c'est plate à dire, mais contre le Curaçao.
Mais on va au moins se magasiner une finale qui va être intéressante. La demi-finale canadienne, on joue contre le Panama.
Contre le Panama. Mm-hmm. Canada, se doit de remporter ce match-là. C'est la meilleure équipe des deux. Et après, ce serait une finale contre soit les États-Unis ou le Mexique.
Ce qui est très intéressant.
Et c'est à Las Vegas, dans le stade de la NFL. Ça va être...
Le stade des Raiders?
Ça va être vraiment impressionnant. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de fans du Mexique qui font le voyage. Les Américains, ils ont beaucoup de fans aussi un petit peu partout. Ça devrait être une belle finale. Au niveau de la vie de la Nations League, de la Ligue des Nations, c'est-tu quelque chose qu'on veut voir se perpétuer d'année en année? Je ne pense pas, mais ça sert de qualification pour la Gold Cup, qui la Gold Cup sert de qualification pour la Copa América en 2025. Donc, c'est une structure peut-être là, à revoir ou à conserver selon le niveau de compétition de la région.
Le Canada est un peu coincé par le manque de calibre de sa zone géographique au final.
Exactement, mais on a des joueurs qui se développent dans leur club en Europe.
C'est ça l'important,
finalement. Donc, entre les fenêtres internationales, les joueurs continuent à se développer. Ismaël Koné à Watford, Alfonso Davies, Bayern Munich,
Jonathan David
à Lille, qui devrait peut-être aller jouer en Première Ligue cet été. Puis même à ça, il y a d'autres joueurs qui jouent ailleurs. Kyle Aaron qui est rendu en Liga.
Buchanan.
Buchanan qui devrait partir de Bruges aussi pour aller peut-être en Italie. Là, c'est les rumeurs les plus persistantes.
Okay.
Ushtakio à Porto. Non, mais il y a de cela 3-4 ans, j'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais cru nommer autant de clubs prestigieux à côté de noms de joueurs canadiens.
Très, très bien intéressant.
Petite parenthèse sur une ancienne fleur du soccer canadien, mais en tout cas, qui est encore dans la fleur de l'âge, ironiquement, notre cher Balou Tableau.
Oh, Balou!
Jean-Yves, de son prénom.
En Turquie?
Ça va bien? Il va vraiment bien, il marque. Là.
En deuxième division en Turquie?
Deuxième division, certes, en Turquie, mais quand même, peut-être qu'une promotion est possible du côté de son club ou en tout cas un autre transfert éventuellement.
De tous les joueurs qu'on nomme depuis tantôt, là, c'est peut-être lui le plus talentueux.
Ouais.
Mais il me semble que ce nom-là me parle de quelque chose. Il n'avait pas été. C'était pas un jeune qui s'était ramassé dans une grande équipe, puis le jour où on n'en entend plus parler, je sais pas ce qui s'est passé. Là.
Choix de carrière peut-être douteux. On l'a vendu trop tôt du côté du CF Montréal. On l'a vendu à Barcelone, mais le club B de Barcelone, donc le club de formation, n'avait pas vraiment sa place, c'était mal encadré. Je pense qu'il y avait le mal du pays aussi, pas beaucoup de support, appui du club non plus. Et c'est devenu comme un wonder kid has-been maintenant, donc une jeune pépite qui n'a pas éclos. En tout cas, mais il est pas trop tard non plus pour Balou. C'est pour ça que je veux faire une petite parenthèse sur lui parce que il y aurait éventuellement sa place encore en équipe canadienne, puis peut-être dans un club un peu plus prestigieux.
Dans une entrevue à la fin de la saison dernière, il jouait en première ligue canadienne avec Ottawa. Il a dit que un de ses buts c'était de retourner jouer avec l'équipe canadienne. Par contre, là, il commence à avoir congestion à son poste. Là. Il est ailier ou milieu offensif attaquant. Il y a beaucoup de monde. Okay. Il y a beaucoup de monde. Si je jouais défenseur central, on aurait une discussion différente. Ouais. Mais
ce serait un exécrable défenseur ouais. central. Mais
oui. Bon, ça va être difficile ouais. pour Balou Tabla de revoir son poste.
Peut-être ouais. pour continuer cette émission, c'est le début de la saison de MLB aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. J'étais vraiment, comment dire, fébrile parce que les matchs commençaient à 1h cet après-midi.
Est-ce que les Blue Jays ont commencé?
Pas encore. Là. En ce moment, il y avait.
C'est une des trois journées où ils jouent pas dans l'année?
Ah non, ils jouent. Tous les clubs sont en action aujourd'hui. C'est le opening day. C'est la journée d'ouverture.
Les Blue Jays jouent aujourd'hui?
Oui, à 4h10. Okay. Oui, mais pas en ce moment. Non, c'est okay. ça, je parlais des matchs en ce moment.
J'étais proche du deuxième, du troisième carton jaune.
Enlevez-y le droit de donner des cartons allègrement.
Moi, c'est moi qui décide.
Il a jamais joué au soccer de sa vie, puis il a le droit de donner des cartons.
Non, mais c'est moi qui fais de la radio.
Moi, je me dédouane. C'est pas moi qui arbitre aujourd'hui.
Bref, 4 matchs en ce moment. Les Cubs qui mènent 4-0 sur les Brewers. Ça va bien pour le club de Chicago. Évidemment, les vilains par excellence.
Pas mal le seul club de Chicago qui va bien.
Ouais, ben les White Sox. Ouais, les White Sox, leur club rival, eux n'ont pas encore commencé à jouer, mais je pense que c'est une saison de renaissance pour les White Sox qui ont congédié leur vieux de la vieille, Tony La Russa, le gérant l'an dernier.
Ont un de mes lanceurs préférés. Hein.
Lucas Giolito?
Non.
Dylan Cease?
Non.
Lance Lynn? M'a tout dénommé, ouais. Lance Lynn, ah ouais.
Ah, tu connais tes lanceurs, c'est incroyable. Je pensais que Lance Lynn aurait été le premier.
Ben, c'est quand même un vétéran.
C'est un vétéran, mais l'intensité sur le monticule, ouais. c'est vraiment
ouais.
impressionnant.
C'est un bulldog, ouais. comme on dit ouais. dans le jargon de baseball. Là. Ouais, ouais, c'est un méchant.
Il y a quelque chose sur quoi je veux vous entendre. Vas-y donc. Ce début de saison dans le baseball majeur, c'est tous ces changements, très particulièrement l'horloge pour lancer.
Ouais.
J'en lis beaucoup là-dessus, j'en entends parler sans arrêt, puis c'est pas le sport que je suis le plus. Quel impact ça va avoir?
Ça a un impact sur les lanceurs qui ont des motions très lentes. Je pense à un gars en particulier des Astros de Houston, Luis Garcia, qui avait une motion très lente où on avait l'impression qu'il berçait un bébé avant son lancer. Ce gars-là, il a changé sa motion complètement, à la limite. Okay. Là. Donc oui, c'est en fait, on veut accélérer le temps des matchs parce que c'est
ça
interminable
marché,
des fois.
Ça, par exemple? Là.
Effectivement, là, la pré-saison, on voit que ça a déjà des bénéfices, en tout cas bénéfices pour la durée des matchs, certes. Là,
je
la
voyais
ligue.
Des vidéos juste de côte à côte, de deux at-bats ouais. différents. Puis dans les vieilles règles, il y en avait un où tu n'avais même pas fait un lancer avant que le at-bat avec les nouvelles règles soit déjà terminé. C'est hallucinant le changement là, de
c'est,
rythme
c'est hallucinant,
pour le baseball.
Puis ça fait plusieurs années que plusieurs fans de sport en général le demandent. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qu'on devait améliorer au baseball. Parce que même si on prend les capitales de Québec, les matchs sont interminables.
Oh, le rythme du baseball, c'était son plus grand ennemi.
C'est parce que si tu commences à boire une bière en première manche, t'es rendu à 9, 10, 15, rendu en 9e, ouais. ça finit plus.
Ah, ça n'a pas
ça finit plus. Ta poutine que t'as mangée au début du match, t'es rendu à aller t'en chercher une deuxième, ouais, parce que là, ça finira jamais.
Ouais, c'est ça, tu manges deux repas dans le match. Hein.
Surtout quand t'as des festivals offensifs où il y a vraiment beaucoup de points de marqué puis que les lanceurs s'alternent.
On passe 8 releveurs de chaque côté.
Ouais, puis là, le releveur, faut qu'il se prépare. On fait sa préparation.
Le baseball, c'est un sport où on résiste beaucoup aux changements.
Oui.
Hein, de tradition.
Très
réfractaire. Bon, bien sûr, la plupart des vieux gérants d'équipe n'aiment pas cette nouvelle règle-là, mais ce sera positif, selon moi, sur toute la ligne. Mm-hmm. Toute la ligne. Les joueurs vont s'habituer. Bon, il va y avoir des growing pains, comme on dit. Là. Il va y avoir de l'apprentissage en cours de route.
Clairement.
Est-ce que ça a un impact sur le jeu en tant que tel? D'une façon X-Ray-Z, la façon de s'affronter entre lanceurs et frappeurs, ou c'est purement au niveau du rythme puis de l'habitude, mais est-ce que niveau stratégique, ça peut changer quelque chose? J'entendais dire que ça, on risque de voir plus de pick-off.
Oui. Ben, y a ça aussi, parce que là, on donne une certaine latitude au receveur, donc au catcher aussi, de lancer plus souvent au premier but. Les buts aussi sont plus gros. Il y a d'autres règlements. Là, on a augmenté un peu la dimension des coussins. Donc,
oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça a sur l'impact, ça?
Plus facile pour les buts volés, techniquement. Okay.
Parce que t'es un petit peu plus proche de chaque côté.
Ouais.
Y a aussi un plus droit de chiffre défensif.
la défensive spéciale. Ça, c'était comme c'était un nouveau règlement qu'on a décidé de bannir finalement. Donc, c'est pas nécessairement réfractaire au changement. On a essayé une nouvelle formule pour la défensive spéciale à la base. Donc, on a chaque joueur doit rester entre ses coussins. Donc, le joueur d'arrêt court, par exemple, doit rester entre le deuxième puis le troisième absolument. Et ils n'ont plus le droit de quitter l'avant-champ. Donc, ils doivent toucher encore au sable. Ils ont le droit de toucher au gazon. Donc, pareil pour le joueur de premier but entre le deuxième, tu sais, ou le joueur de deuxième but entre le premier puis le deuxième.
Ça, c'est toujours avant le jeu, bien sûr, quand le jeu est en action.
Tu peux aller chercher la balle dans l'entrée-champ.
C'est une drôle de comparaison, là, mais un peu comme le volleyball. Avec les changements de position, là, quand t'as ton passeur qui est en arrière, ben, il faut qu'il commence à une certaine place, mais après ça, il peut se transférer vers l'avant. C'est un peu le même genre de choses. Donc, si on veut faire une espèce de défense spéciale, c'est... Dès que le balle est lancé, ben tu peux te déplacer un peu vers la zone que tu veux courir.
Exactement. Selon moi, tout est positif dans les changements pour le baseball.
Vraiment, tantôt j'écoutais un peu le match des Yankees justement et Gerrit Cole était sur une autre planète là, passait tout le monde dans le mythe. Les frappeurs des Giants n'ont vu que du feu. Là. Ça a fini 5-0 puis le match a fini à 15h30. Ça a commencé à 1h15.
Jamais vu ça.
Express.
Un match d'ouverture au Yankee Stadium qui est terminé en 2h30, jamais vu ça.
Express. C'est fascinant quand même.
Et la longueur du match de hockey, là, soudainement, il n'y a plus de
exact.
Presque. Ouais.
Puis ça joue les deux côtés. Tu sais, on pense au lanceur. Oh, pauvre lanceur, il y a moins de temps pour lancer. Mais le frappeur a moins de temps pour se préparer aussi.
Il y a des frappeurs là, qui sont lents dans le box. Là.
Puis il va y avoir des lanceurs bon, qu'on apprécie un peu parce qu'ils sont un petit peu plus frivoles, là, comme les Nelson Cortez, qui vont jouer avec avec leur motion, avec la vitesse de celle-ci. Bon, peut-être lancer plus lentement, plus vite, pour changer un petit peu la tendance. Moi, je pense que c'est seulement du positif.
Mm-hmm. Ah, cool. Il nous reste seulement quelques minutes. Je pense que ça vaut la peine de se lancer un peu sur le hockey.
Ouais.
Avec, particulièrement, on en parle depuis longtemps.
Ouais, quand même, on avait hâte.
Les débuts de Sean Farrell avec le Canadien qui contre les Flyers de Philadelphie. Un des espoirs les plus attendus du côté du Canadien de Montréal. Le petit attaquant ultra intelligent. Gars presque diplômé d'Harvard, là, on s'entend. Pour jouer au Walker Harvard ou à tout sport dans les écoles de la Ivy League, là, c'est pas comme certaines écoles américaines.
C'est pas comme jouer à Ohio State. Là.
Non. On s'en fout des notes à Ohio State.
Les notes doivent suivre.
Harvard, t'as pas le choix. Là.
C'était pas Pacioretty avec les Wolverines de Michigan.
Non, tu peux pas rentrer étudiant libre à Harvard.
Non, il y a quelque chose.
Il court compensatoire.
C'est un gars brillant. Hyper intelligent.
C'est un peu comme Jordan Harris que t'affectionnes particulièrement aussi.
J'allais voir, il va être dans la même lignée, j'ai l'impression.
Ils aiment tout.
Oui, j'aime beaucoup les jeunes espoirs. C'est une des choses que j'aime beaucoup suivre. Sean Farrell qui, ses débuts ne semblent pas avoir fait plaisir à Martin Saint-Louis. Peut-être pas au niveau de son jeu en tant que tel, là, mais avant qu'il joue. Contre les Flyers, on l'a questionné. Hey, comment ça, Farrell joue? Parce que juste pour vous donner la ligne du temps, là, on est mercredi.
C'était mardi le match. On est jeudi. Le match était mardi. Oui, contre les Flyers.
Lundi, Sean Farrell arrivait avec le Canadien. Mardi matin, il rencontrait l'équipe. Mardi soir, jouait. Aucun entraînement, seulement une petite rencontre vidéo.
Je pense que Martin Saint-Louis, c'est peut-être c'est peut-être ça qu'il n'a pas apprécié. Hein.
Il ne semble pas avoir apprécié, puis ça semble pas avoir été sa décision. Quand on lui a demandé, bon, comment ça, Sean Farrell fait son début dans l'alignement aussi rapidement, ça, c'est une question pour Kent.
Oh.
Directement.
La réponse.
Jeff Corton semblait défendre la décision en disant, premièrement, on veut le voir le plus rapidement possible. Il nous reste pas beaucoup de matchs.
C'est clair.
Il dit, tu sais, Jordan Harris, quand on l'a eu l'année dernière, il y avait deux fois plus de matchs à jouer. On avait le temps de le laisser dans les gradins avant d'y aller. Là, on n'avait pas nécessairement ce luxe-là avec Sean Farrell. Mm. Puis il a dit, on voulait le faire jouer devant ses amis à Philadelphie.
Bon. Hey, qu'est-ce qu'on a à perdre, là? Ben, absolument rien.
Surtout qu'il y avait, bon, Dak n'est sorti du line-up encore parce qu'il est blessé. C'est pas comme si on avait 1000 options chez le Canadien. A pas joué un vilain match. En sortie de zone, c'est difficile, c'est ce que j'ai remarqué, là, puis c'est surtout au niveau du timing. C'est normal, pas être pratique.
Il n'y a aucune connaissance du système. Là. Jonathan Drouin et Gourianov qui jouaient avec lui, ce qui n'est pas des mauvais nécessairement compagnons de trio à lui donner, mais si Jonathan Drouin a commenté, il a dit bon, on n'avait pas de chimie ce match-là, puis il a dit on essayait de lui bourrer le crâne du plus d'informations qu'on était capable, puis essayer de l'aider, mais pas trop en même temps pour pas le déranger.
Ah, puis quand t'es en sortie de zone, là, avec un défenseur qui te pinche de 220 livres, là, bon.
Sean Farrell a dit il a été surpris. C'est comme tout jeune qui commence par la vitesse, la robustesse, qui était tout à fait différente, là.
Je pense qu'il a joué 13 minutes, pas pris de tir.
Non, il a quand même, mais tu sais, il a joué un match responsable. Puis je pense que c'est une des qualités de son jeu qui va être appréciée. C'est pas un gars qui va avoir des enjeux défensivement. C'est après ça de réussir à trouver dans le système sa place offensivement.
Il a joué le même match qu'Owen Beck a joué. Oui. Il a joué contre les Sénateurs.
Rien de spectaculaire. Tout le monde était bien excité de le voir, mais il était là. Il a pas mal fait. Après ça,
voyons ce soir, parce qu'il est encore dans l'alignement.
Ouais.
Sûrement, c'est sûr à 100% qu'il va avoir un meilleur match. Plus à l'aise, il a eu deux pratiques derrière la cravate. Mm-hmm. Ça donne une chance.
Certain. Peut-être pour terminer.
Oui, vas-y.
Ben, le dernier sujet, je m'en ai plus dit, mais t'avais l'air d'avoir.
Non, pas en tout.
On a appris les trois finalistes pour le trophée OB Baker au hockey universitaire. Lane Hudson qui ne fait pas partie des finalistes.
Non, exclu.
Sean Farrell non plus.
Les deux sont dans le top 10 par contre, mais oui.
Me surprend plus que Lane Hudson. On dirait que j'imaginais. Les voteurs semblaient pas nécessairement plus enthousiastes que ça, de dire, bah, tu sais, peut-être un jeune. On dirait qu'il n'y avait pas nécessairement cette énergie-là.
On donne une grande importance souvent là, au nom dans l'NCA.
Oui, puis les attaquants.
On a voulu inclure un senior, je pense aussi.
Oui.
Ouais.
Donc là, t'as Adam Fantilli, sans surprise, qui devrait partir, là, à moins d'un vol, devrait partir sans aucune difficulté avec le trophée.
Logan Cooley.
Ça non aussi. Plus, ça me surprenait pas.
Non, programme de développement américain, en plus, joueur local.
Super vedette.
Deuxième au total au repêchage.
C'était le troisième qui était plus flou.
Ouais, Matthew Knees. Ouais. Choix de deuxième ronde des Maple Leafs de Toronto.
Je m'attendais vraiment à y voir Sean Farrell.
Surtout que, on s'entend, là, Sean Farrell ou, ben, en tout cas, Lane Hudson qui a plus de points en plus que notre cher Matthew Knees.
En étant plus jeune et un défenseur.
Joueur de gros gabarit, comme on les aime, tu sais, en tout cas.
Matthew Knees qui était même pas le meilleur marqueur sur son propre trio.
Non, c'est ça.
C'est quand même particulier. Lui qui jouait avec Logan Cooley, si je ne me trompe pas. Exact. Mais c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, Matthew Knees. Comprenez-moi bien, là, les fans des Maple Leafs vont l'aimer pendant longtemps, puis les fans des Canadiens vont le détester pendant longtemps.
C'est clair.
Mais
c'est un choix conservateur.
Ça me semble effectivement le cas. J'ai l'impression que Lane Hudson, oui, mais je le voyais moins nécessairement. Juste par sa position, son âge, tout le combiné. Mais j'avais vraiment l'impression que Sean Farrell, qui a eu la meilleure moyenne de points par match après Adam Fantilli dans la NCAA.
Mais surtout son niveau pour le côté juste domination spectaculaire.
Exploit.
Lane Hudson doit être là. Mm-hmm. Il soit freshman ou non, peu importe.
Hey, on a déjà donné le OB Baker à Jimmy Vesey.
Non, c'est ça. C'est une petite année.
Il y en a eu plein, mais quand même.
Ah non, c'est vraiment particulier comme décision. Comme je dis, je pense que Lane Hudson méritait d'être là. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit. Je m'attendais vraiment à Sean Farrell. Ça m'a grandement surpris. Mais c'est pas rien à inquiéter quiconque
non.
À propos de Lane Hudson. Ce gars-là va être quelque chose de spécial dans la Ligue nationale de hockey. J'ai déjà hâte de voir sa deuxième saison, comment il va jouer, comment il va dominer. Mm-hmm. Mais tout le monde qui parle de lui, que ce soit en entrevue, ses coachs, ses collègues, il parle d'un gars hyper brillant, hyper intéressant, hyper... Non, vraiment... quoi. Ça me fait beaucoup penser à l'énergie qu'il y avait autour de Cole Caulfield. Tyler Toffoli a eu une entrevue il y a pas longtemps, puis il parlait justement de Cole Caulfield. Il disait, ce gars-là, hilarant, tellement le fun.
Les deux s'aimaient pas mal.
Ah oui,
Toffoli, il voulait vraiment rester à Montréal.
Ah oui.
Toffoli aimait beaucoup Suzuki fascinant. Aussi.
Oui, les deux, les trois ensemble, en fait.
Caulfield venait d'arriver, ça faisait deux semaines, puis il était déjà en train de divertir chez Weber, puis il parlait à chez Weber comme si de rien n'était, puis il disait, c'est ce genre de joueur-là, une électricité autour, puis je sens le même genre d'énergie autour de Lane Hudson. Puis on l'a vu comment ça a dynamité l'organisation du Canadien quand Cole Caulfield est arrivé. L'énergie autour de ça, le dynamisme autour de ça était complètement différent.
Ouais.
J'ai hâte de voir si Lane Hudson aura le même impact.
Patience. Patience.
C'est l'an prochain à Montréal.
Ben, en fin de saison, peut-être bien.
Ben oui, exact.
C'est pas impossible du tout, là, mais j'ai l'impression que...
C'est-tu tout le temps qu'on avait?
Ben oui, c'est tout le temps qu'on avait. Vous écoutez le match ce soir, les garçons? C'est ça qui se passe?
Certainement.
Ouais. Ben oui, oui.
Okay, cool.
Hier, j'ai été déçu hier. J'étais partisan des Leafs le temps d'une soirée.
Ah. Oui!
Oh! Non, mais parce qu'ils jouaient contre les Panthers.
Ouais. Ah, j'ai fâché raide, là.
Mais c'est frustrant être fan des Leafs. Ils ont tellement de talent, tu penses qu'ils vont la mettre dedans assez facilement, mais non. Ça tourne alentour du pot. C'est pas le fun.
Les Panthers qui continuent de m'inquiéter là, je pense vraiment qu'ils vont pas se rendre en série, mais c'est serré en tabarouette.
Ouais, c'est une grosse course dans la conférence de l'Est entre autres. Ouais. Voilà. Hey, c'est tout le temps qu'on avait. On se dit à la semaine prochaine pour Conduite Antisportive.
Bye.
C'est chez Jarive qui s'en vient.
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec. We'll be right back.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheez a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Cheez 94.3.
C'est le printemps à l'Impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du Petit Béliveau. Le 14 avril, c'est Lou Adrian Casti qui va t'impressionner avec sa présence scénique envoûtante. Viens voir Petit Béliveau et Lou Adrian Casti les 13 et 14 avril à l'Impérial Belle. Billets en vente au imperialbelle.com.